Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC, c'est ton podcast de Formule 1, c'est tous les jeudis jusqu'à la reprise de la saison. On est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement et sur rmc.fr. On vous remercie d'ailleurs parce que les chiffres sont tombés. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tous les mois. Alors Vincent Moscato, il dit ça tout le temps et lui, des fois, c'est faux. Mais nous, c'est vrai. Donc vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous noter aussi. Donc vraiment, un grand merci pour ça. Hein. C'est super important pour le podcast. Les ingénieurs du paddock du jour, ils ont analysé. Alors là, les amis, je vous le dis, ils ont analysé le moindre détail des premiers essais hivernaux à Bahreïn. Scruté chaque détail sur toutes les voitures. Louis Gerbier et Alex Caldi sont avec nous. Salut les gars.
Salut Nico, salut tout le monde.
Hello.
C'est toujours sympa ces premiers essais là. On voit les voitures, ça y est, premier tour, les mecs au volant. Il y a une petite excitation, même si on sait que bon, au niveau sportif, on va pas prendre énormément de choses après ces trois jours d'essai, mais c'est toujours particulier quand même, hein.
J'sais ouais, pas non, c'est clair. Pensé, enfin, c'est sûr. Mais... Surtout de voir la Visa Cash Aperbe rouler. Franchement, c'est,
ouais,
elle est au top. Franchement, ils ont tout défoncé. Bravo à eux.
Et j'adore le bleu de la Williams. Je trouve que ce bleu est magnifique aussi.
Ouais, et le bleu de l'Alpine rend bien mieux en naturel que le soir de.
Je suis d'accord.
Ouais. Mais alors vraiment, vraiment incroyable parce que quand je l'ai vu en piste, je me suis dit ah. Bah en fait c'est pas un Malabar Bigou tant que ça, en fait elle est presque pas mal en fait, puis plus je la voyais, puis je me disais elle est pas mal, ouais.
C'est vrai. Alex Caldi, c'est que clair, vous retrouvez clair sur les réseaux sociaux, un créateur de contenu Formule 1, il stream aussi les essais. T'as commenté hein Alex, c'est ça les essais?
Ouais, dès le début, dès 7h30 hier, et puis là, en ce jeudi, là, de nouveau, et puis là maintenant, on enchaîne, toujours.
Ah, on enchaîne, en effet. La roadmap du jour, dans le paddock, on vous emmène à Bahreïn. Du coup, les premières infos de ces deux premiers jours d'essai. Au moment où on enregistre ce podcast, il reste une heure du deuxième jour d'essai. On a à peu près 15 heures de roulage à décortiquer. Les premiers ressentis des pilotes, les tendances qui se dégagent. Même si c'est encore très tôt, on le sait, dans la saison. Bon, on vous l'avoue, tous les regards sont braqués sur Lewis Hamilton. Hein. C'est là Lewis Mania. D'ailleurs, il a parlé là, il y a vraiment très peu de temps. Donc, je vais vous relayer un petit peu ses premières déclats à Bahreïn. Et puis, on se fera un petit débat quand même en fin de Grand Prix sur ce qui se passe à Monaco. La FIA a annoncé l'obligation d'effectuer deux arrêts pendant la course. Pour relancer le suspense, les dépassements. Je vais vous poser cette question, les gars. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer ce qui fait le charme de cette course mythique? Voilà. Il y a des bons. Allez, c'est parti pour le paddock RMC. Les résultats des essais, je vais vous donner un peu les temps de la première session. C'était hier, du coup, je vous rappelle qu'on enregistre le jeudi. Donc, premier tour sur le circuit de Shakir à Bahreïn, mercredi, tôt le matin. Lando Norris a terminé meilleur chrono de la journée devant George Russell. 157 millièmes d'avance pour Norris. Verstappen, 3e. Charles Leclerc, 4. Pierre Gasly, 6e, avec son Alpine. Andrea Kimi Antonelli qui termine 7e. Et pour sa première séance en Formule 1, pilote officiel Formule 1, Isaac Hadjar, 11e chrono. À l'heure où on se parle, il nous reste combien de temps là? Il doit nous rester un peu plus de 45 minutes.
8 heures.
Oui, bien sûr. Il y a la journée de demain aussi, mais là, il nous reste 45 minutes sur cette deuxième session d'essai. C'est Carlos Sainz qui a signé le meilleur chrono devant Lewis Hamilton qui s'est emparé du meilleur temps sur la session de la matinée. Charles Leclerc, 3e. Donc voilà, un petit peu au niveau sportif où on en est. Alex, toi qui a pu analyser tout ça, qui a streamé sur tes réseaux ces séances d'essai, qu'est-ce que tu as retenu au niveau technique? On sait que ces essais, ça sert à faire des tests, tous les réglages possibles, des tests aéro, des tests pneumatiques. On teste la monoplace sur des stints très courts, sur des relais beaucoup plus longs. On peut faire des simulations de course. C'est large, c'est varié. Qu'est-ce que tu peux retenir, toi, alors où on se parle de ces premiers essais hivernaux?
Bah, ce que je retiens, c'est ce qui est toujours apprécié avec les essais hivernaux, c'est de la manière dont les écuries abordent ces essais par rapport justement au programme. Dans le sens où tu regardes par exemple au moment où on se parle, Isaac Hadjar, il est en train de faire un Grand Prix de Bahreïn. C'est-à-dire qu'il est en train de faire les cinquantaines de tours qu'il va y avoir justement prochainement sur le Grand Prix de Bahreïn, qui n'est plus d'ailleurs le premier Grand Prix de la saison, ce sera en Australie dans deux semaines. Et la manière dont tout le monde travaille d'une manière différente, où tout le monde presse est en train de se dire, on peut peut-être aller chercher le titre. Tout le monde se voit presque comme des champions du monde d'une certaine manière, dans une certaine mesure, bien sûr. Mais moi, ce que je vois principalement, c'est surtout qu'il y a des écuries où, au-delà du regard technique plutôt, il faut surtout regarder le body language, la manière dont les gens agissent, le personnel réagit de la manière dont ils travaillent, par rapport au regard sur la voiture, par rapport au regard de justement des programmes. Quand tu regardes chez McLaren, ils sont détendus. Il n'y a pas de problème. Et même plus qu'il n'y a pas de problème, ils sont détendus parce qu'ils savent qu'ils sont champions du monde en titre et que la monoplace de cette saison est une énorme évolution d'une monoplace qui était très saine, très puissante, très intéressante l'an dernier, qui était d'ailleurs championne du monde constructeur. Quand tu regardes chez Ferrari, ils sont aussi très détendus au regard de Frédéric Vasseur, de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton, où cette coopération se passe jusqu'à maintenant, bien sûr. On n'est même pas au premier Grand Prix de la saison. Tout se passe excellemment bien. Et c'est plus ces deux écuries-là où quand je les regarde, je me dis, eux, vraiment, ils sont très très bien vis-à-vis peut-être de leur confiance vis-à-vis de la voiture, plus particulièrement McLaren. Hein. McLaren, quand tu regardes le tour de Lando Norris sur les derniers tours qu'il a pu réaliser lors de la fin de la première journée, tu vois que McLaren est très bien. Et très très bien, il n'y a pas de gros problèmes. Là, les questionnements sont peut-être plus autour de Red Bull, qui a changé beaucoup de choses à l'intérieur de sa monoplace et en dessous de sa monoplace, pas sur le châssis. Tu peux regarder aussi également Ferrari, parce que Ferrari, ils ont changé aussi 99% de la voiture, ce qui est énorme dans une saison 2025 qui est une saison avant la 2026, où il y a le changement de réglementation. Donc, il y a des all-in qui se font chez Ferrari, peut-être, pour aller chercher le titre cette saison. Et puis, tu as aussi un regard qu'il peut y avoir, notamment chez nos Français, Alpine, où, en termes de performance, il n'y a aucune conclusion à en tirer et même aucun ressenti à en tirer. Par contre, en termes de fiabilité, là, il y a plus de confiance vis-à-vis de ça.
Ça, c'est clair. Et Pierre Gasly, il le dit, hein, il aborde la saison vraiment totalement différemment de la saison dernière. On en a parlé la semaine dernière. Vous pouvez retrouver l'épisode d'ailleurs, qui est bien évidemment toujours disponible. C'est vrai qu'on a parlé de la... Alors déjà, il faut dire que sur ces deux premières journées, on n'a pas eu de problèmes techniques majeurs. On n'a pas vu de soucis de fiabilité. Il y a eu quelques petites
scories. Il n'y a pas juste tout le circuit qui s'est coupé.
Ah non, mais je te parle, Alors oui, en effet, il y a eu un petit souci électrique sur le circuit. Ça nous a un peu plombé.
Ouais, bien, il y en a. Il a oublié de couper le compteur et tout. Non, mais c'est pas possible.
Après, à Bahreïn, ils ont des petits soucis économiques. Donc voilà, hein, l'inflation, ça les touche aussi, mon Louis. Ouais. Eh oui, bien évidemment. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu ce souci électrique qui a plongé le circuit dans le noir pendant une heure. Mm-hmm. Mais du point de vue sportif, franchement, ça se passe plutôt bien. Après, la réglementation technique, elle n'a pas énormément évolué, on le sait. Hein, c'est un peu plus côté moteur, mais c'est stable quoi, hein, au niveau technique. Donc tu sens que il n'y a pas de développement majeur. C'est vrai que tu parlais de la Red Bull, Alex, Louis. Red Bull, on a la sensation qu'ils ont changé beaucoup de choses sur la voiture. La RB21, quand même, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment différentes. Et d'ailleurs, Max Verstappen, des fois, bon, on le connaît, hein, le franc-parler de Max, mais il y a des trucs qui lui déplaisent sur sa Red Bull. Hein. Il a un peu queené à la radio hier.
Queené, ouais. Max a queené, mais Helmut, lui, en revanche, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a dit, il est très confiant. Apparemment, ils ont la meilleure voiture du plateau et tout va bien se passer.
Il a dit les problèmes de Red Bull en 2024 sont quasiment réglés.
Voilà. Donc, pourquoi le croire, mais pourquoi pas le croire aussi ? Parce qu'en fait, on est aux essais et les essais, c'est de la frustration. C'est-à-dire que tu vois plein de choses, mais en fait, tu peux tirer très peu de conclusions. Donc, c'est beaucoup d'expectatives. Donc, on se dit Red Bull change plus de choses, donc ça va être plus compliqué d'avoir une continuité. Mais en même temps, peut-être que s'ils changent des choses, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose pour gagner du temps. Donc, on va attendre l'Australie, mais à part Ferrari, c'est quand même qui, comme l'a dit Alex, fait vraiment prend une autre direction presque. Les autres sont dans une évolution et Gasly l'a dit hier au micro de nos confrères de Canal. Normalement, cet hiver, celui qui a trouvé une seconde, c'est vraiment un génie, quoi. Donc ça, ouais, ça va être des histoires de dixième et pourquoi pas. Et moi, j'ai beaucoup aimé, on est parti de Red Bull, mais j'arrive sur Alpine, j'ai beaucoup aimé l'interview de Pierre et de Briatore, où quand tu te rappelles des débuts de saison de l'année dernière, tu te dis, bon, au moins là, ils sont là dès le début, on va voir, hein, on n'est pas là pour croire qu'ils vont faire des merveilles, mais au moins, ils vont pas partir comme l'an dernier. Bon, c'était même pas du parking qui partait, c'était de...
Ouais. Plus loin que le parking.
Ouais, ouais.
Ouais, y a les conditions météo aussi, Alex. Bon, je vais pas dire que ça tronque ces essais, mais en tout cas, parmi les ingénieurs dans le paddock, on s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi froid. Il y a eu pas mal de petites interruptions liées à la pluie. Enfin, la pluie s'est invitée pas mal de fois. Il y a eu du vent aussi. Et le vent, c'est vraiment délicat. On sait de régler, de développer une monoplace dans le vent. Ça joue. Et notamment, tu vois, du côté de chez Mercedes, on a été parfois un peu surpris de les voir si loin. Mais c'est peut-être dû aussi aux conditions météo.
C'est peut-être dû aux conditions météo. D'ailleurs, c'était étonnant de voir un circuit de Sakhir, comme tu le disais, où il fait une quinzaine de degrés et il y a de la pluie d'une manière assez intensive quand même qui vient s'inviter sur le tracé. Mercedes aussi, c'est un énorme questionnement vis-à-vis de 2025. Il y a un peu plus de réponses tout de même vis-à-vis de ces essais hivernaux. Pourquoi ? Parce que George Russell a quand même dit, dès qu'il a pris les volants de cette donc nouvelle W16, qu'elle était beaucoup plus pilotable, beaucoup plus conduisible que la W15 qui était... né compliqué, qui s'est imposé quand même à de multiples reprises l'an dernier, certes, mais la saison a été tellement, c'était tellement des hauts et des bas vis-à-vis de Lewis Hamilton, notamment, d'ailleurs ça s'est terminé, et également George Russell, que là, peut-être enfin, on aura une saison saine du côté de chez Mercedes, où tu as Russell, mais tu as également aussi Andrea Kimi-Antonelli, qui fait des très bons essais hivernaux depuis qu'il a pris le volant de la W16. C'est très encourageant vis-à-vis d'ailleurs de sa mise en place et de sa mise justement en chauffe vis-à-vis de son premier Grand Prix dans deux semaines en Australie. Il enchaîne les tours, Mercedes enchaîne les tours sans problème mécanique et sans grosses inquiétudes. Ça permet de rebondir sur ce qu'on nous disait juste avant. Il n'y a pas de gros problèmes mécaniques, il n'y a pas de grosses inquiétudes vis-à-vis de la majorité des écuries parce que nous sommes en toute fin de réglementation et que tout le monde comprend cette réglementation et que surtout on s'approche de 2026 où là par contre, par exemple, si on fait la comparaison par rapport aux événements de 2026, là ce sera le jour et la nuit et on aura plein de problèmes de tous les côtés. Quoi.
Ça va être énorme, les essais de l'année prochaine. On a parlé de Pierre Gasly, on a un peu parlé d'Isaac Hadjar. Comment vous l'avez trouvé, Isaac, sur ses deux premiers jours de roulage? Il est pas loin de Tsunoda hier. Il est à quoi? À 2 dixièmes, donc vraiment dans l'échappement de son coéquipier. Et là encore, on le disait, il est sur une configuration sur cette deuxième journée où il simule vraiment un grand prix. Voilà, peut-être aussi pour se donner des infos sur sa capacité à accumuler les tours en course. Il est pas si mal là, il est remonté 14e à l'heure où je vous parle. Et par rapport à Tsunoda, il y a quoi? Ouais, il y a 2 dixièmes. C'était 2 centièmes hier, pardon, et là il a 2 dixièmes. Donc c'est pas mal ce que fait Isaac, hein, sur ces deux premiers jours-là.
Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Et surtout, j'ai lu des déclarations de Laurent Mekies qui allaient dans ce sens-là. Il a, en tout cas, publiquement, il annonce que Isaac montre énormément de motivation et d'humilité. Et que depuis son arrivée dans l'écurie, il montre tout cela et que ça promet de belles choses. Maintenant, il faut lui laisser un peu de temps, sauf qu'on sait qu'on est en F1 et que du temps, il n'y en a pas. Donc, c'est aussi à Isaac de faire des très bonnes courses tout de suite. Ce qu'il a dit aussi, c'est le moins d'erreurs possible la première partie de saison parce que c'est le moment où il faut montrer, en même temps assurer, mais en même temps prendre des risques pour montrer, mais en même temps si tu te plantes, bah c'est fini. Enfin, donc c'est toujours compliqué quand t'es rookie, donc ces courses-là sont décisives pour lui. Et pour le moment, tout se passe bien et on touche du bois pour que ça continue.
Petit état que hier, mais bon, sans...
Oui, bah, si tu fais pas un tête à queue dans les essais, t'es pas un grand pilote.
Oui. Non, Liam Lawson aussi. Hein, Liam Lawson aussi.
Vous avez compris que je serais d'aucune objectivité sur Isaac cette saison.
J'ai bien compris. Ouais. Mais globalement, quand on parle des Frenchies, voilà, t'es un poil chauve. Hein.
Ouais, mais, un petit peu.
Mais on aime bien. Après, il y a la stratégie de Haas aussi, Alex, sur ses essais. Alors, Haas, c'est simple, ils l'ont dit, on montre rien. À Bahreïn, on lâche les chevaux à Melbourne.
Bah c'est une stratégie que moi je préfère et que j'apprécie plutôt que de faire croire qu'on va être un énorme outsider avec un top 5 avec un top 5 vis-à-vis du classement constructeur, tu vois, avec As. Non, c'est un travail qui est précis, qui est concis, et surtout qui est un travail de longue haleine, un travail de fond, notamment par les propos d'Esteban Ocon, qui a dit qu'on lâchera donc effectivement les chevaux quand il le faudra. Est-ce que ce sera demain, soir, au soir de la dernière heure des essais hivernaux? Mais c'est un travail qui pour moi a plus de valeur, parce que c'est un travail typiquement des essais hivernaux. Le fait de tester la monoplace, de voir si elle est cassable, de voir jusqu'où elle peut aller, de la mettre dans des situations difficiles, de la mettre dans des situations pour voir sa réaction quand elle est par exemple face à un début de tour de qualification, voir quand il y a un aspect de surchauffe par rapport au moteur, et tester tout ce qui est possible en termes de mécanique pour voir jusqu'où elle peut aller cette monoplace. Et que je pense que As a absolument conscience qu'elle a deux pilotes qui sont absolument incroyablement performants. Ils ont deux joyaux. Il y a un pilote qui est capable d'être un total leader de Grand Prix, un leader d'équipe, un jeune rookie qui a la vocation à devenir le prochain pilote de la Skoda Ferrari. Donc dans la globalité, As a une équipe qui est parfaitement fonctionnelle, une équipe qui est parfaitement assise pour pouvoir aborder 725 de Formule 1, peu importe les programmes qu'elle réalise durant les essais hivernaux. Et que je pense que de toute façon, quand ils mettront les chevaux, quand il le faudra, que ce soit à Melbourne ou quand ce sera demain soir, on verra une écurie As qui est dans une nouvelle ère, une nouvelle phase, avec notamment l'arrivée propulsée de Toyota. Bah, ça leur permettra de pouvoir certainement pouvoir se battre, allez, on va dire, dans un premier temps contre Aston Martin, avant d'espérer peut-être toucher Mercedes.
Ouais, apparemment, les retours techniques d'Oliver Berman sont impressionnants, hein, d'après ce qu'il se dit dans l'équipe.
Ça commence,
Il y a clairement une dynamique chez As. On va pas se cacher, depuis le départ de Gunther Steiner là, et la prise de fonction de Komatsu, qui était son second à la base, on a la sensation un peu... c'est souvent comme ça, ce sont des dynamiques. Et là, on sent que chez As, on est entré dans une dynamique efficiente, calme. On fait des choses simples sans avoir peur de prendre le temps, ce qui est toujours compliqué en Formule 1. Il n'y a pas des grandes sorties dans les médias qui étaient la passion de notre ami Gunther Steiner. Et tout va un petit peu mieux. On a Toyota Gazoo Racing qui arrive pour mettre un partenariat. Alors, c'est pas hyper clair, mais ça donne quand même tout de suite un peu aussi une assise, des sponsors qui reviennent. Comme le disait Alex, un line-up qui fait rêver. Hein. Je pense qu'on peut le dire. C'est vraiment un très, très beau... C'est vraiment une belle paire. Les choses se mettent en place et en plus, ils ont de nouveau 6 sièges sur le pit wall. Donc, tout va mieux pour As, qui va pouvoir peut-être enfin refaire rêver ou refaire plaisir.
C'est un peu une des écuries attractions de ce début de saison. C'est vrai, on a envie de voir déjà Ocon.
Oui, puis on a envie qu'il réussisse aujourd'hui, quand parfois il pouvait paraître un peu détestable ou un peu arrogant sur certains aspects ou un peu ceci, un peu cela. Là, vraiment, on sent tu vois, ils sont mis autour de la table. Ok, maintenant on va dans cette direction, on y va tous ensemble, on fait les choses bien.
Et probablement l'année dernière, As dans le mid-range, l'équipe qui a le mieux bossé, hein, clairement.
S'il n'y a pas le GP de Brésil, ils doivent avoir la 6e place, mais c'est la leur, quoi. Ils l'ont tellement mérité. Donc après, vous avez compris que moi je suis très content de ce qui s'est passé, mais c'est vrai que logiquement, As, sur les 24 Grands Prix de l'année dernière, en soi, voilà. C'était pour eux, mais bon.
Il y a les temps qui commencent à tomber là. Isaac Hadjar, 10e. Bim. Ah, je suis sur le live timing.
Allez, champion du monde, Isaac.
Voilà, c'est beau.
Les gars, faut qu'on parle quand même de l'attraction. On va en parler tout le début de saison. Hein, si vous nous suivez dans le paddock, bien sûr.
Quand il va gagner à Melbourne, on va encore en parler.
Hein, yes. Ouais. Non, mais ça arrive pas tous les ans quand même, ce qui se passe là.
On va se focaliser sur Lewis Hamilton parce que c'est l'attraction du paddock. Parce que tous ses faits et gestes sont décortiqués. La presse italienne est venue en masse sur ses essais. Je vous conseille de lire le papier de notre confrère Frédéric Ferré dans l'équipe, qui est là à toutes les courses ou quasiment tout au long de la saison, qui dit que la presse italienne désertait un peu les essais et les courses de Formule 1 depuis plusieurs années. Là, ils sont plus d'une dizaine de journalistes accrédités. Tout le monde veut essayer de savoir ce que mange Hamilton, ce qu'il fait, s'il se fait très mal. Apparemment, il s'est fait une petite entorse à un moment.
Enfin, on l'a vu.
Quand il est descendu trop tôt du chariot de golf, pour monter dans la voiture tellement il était impatient de piloter. Pour l'instant, Alex, t'as l'impression vraiment que déjà il y a tout ça, tout l'aspect médiatique autour de ce champion qui est incroyable. Mais lui, en plus, t'as l'impression que c'est une vraie lune de miel, en fait, avec Ferrari. Là, ils sont vraiment... c'est la romance, quoi. Love to love. tout se passe bien. Tout est beau, quoi.
Ah, mais c'est un nouveau Lewis Hamilton et c'est tellement plaisant à voir. Moi, je suis extrêmement heureux de revoir Lewis Hamilton, on va dire, avec le sourire. Et peut-être jamais il a été aussi heureux aujourd'hui de pouvoir piloter avec la Scuderia Ferrari. Je me demande même s'il avait déjà donc été aussi heureux lorsqu'il avait gagné tout avec Mercedes et pris ses multiples titres de champion du monde. Parce qu'il y a cette humilité à 40 ans d'aborder un nouveau défi avec un sentiment de renouveau, d'avoir cette humilité de se dire « Ok, je pilote pour la Scuderia Ferrari et je réalise mon rêve à l'âge de 40 ans ». Il faut quand même se rendre compte qu'à l'âge de 40 ans, Hamilton part sur un tout nouveau défi, le plus gros défi de sa carrière en Formule 1, alors qu'il a tout gagné, et alors qu'il a les recommandes de tout, recommandes de cours, recommandes donc de titres de champion du monde, recommandes de victoire, recommandes de podium, recommandes de pole position. Et après tout ça, il ose se lancer un aussi gros nouveau défi. C'est un énorme pari qui est extrêmement risqué. Et par ce pari qui est extrêmement risqué, il y a foncièrement cette joie qui est présente et qui est absolument... extrêmement gratifiant pour nous de pouvoir en fait finalement vivre le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. On a l'impression qu'il a 18 ans, on a l'impression qu'il débute sa carrière en Formule 1, tellement il a ce sourire, tellement il a ce smile, tellement on a l'impression qu'il redémarre une carrière en Formule 1, tellement on a l'impression que c'est un rookie. Et puis il a dit dans ses déclarations aussi avant le CZC hivernaux comme quoi qu'il est arrivé à Maranello, tout le monde était heureux de le voir, tout le monde était heureux de l'accueillir. Et que quand il travaillait du côté de Maranello, ça arrivait très très tôt le matin et ça partait les derniers le soir, tellement en fait l'ambiance est bonne, l'ambiance est très collégiale et qu'on a une ambiance qui est faite pour justement retrouver les sommets avec la Scuderia Ferrari et gagner un titre surtout, ou peut-être les deux, en 2025, constructeur ou pilote, ou constructeur et pilote, peut-être pour Lewis Hamilton ou pour Charles Leclerc.
C'est vrai que Fred Vasseur, il a bien bossé sur ça quand même, sur cette ambiance qu'il peut y avoir, cette dynamique d'équipe qui a l'air assez incroyable. Même les deux pilotes ont diffusé le son de Charles Leclerc la semaine dernière, qui disait que les deux jouaient aux échecs, ils s'aidaient vraiment mutuellement. Charles qui doit énormément apprendre aussi de l'expérience d'Hamilton, et de l'autre côté Hamilton qui doit vraiment essayer de s'imprégner de ce que Charles a vécu, de son feedback avec Ferrari. Tiens, la petite déclat de Lewis Hamilton là, il a parlé à la fin de sa matinée de roulage là, sur ce deuxième jour d'essai. Il a dit quand même quelque chose, et ça c'est vrai que c'est juste, il dit « Bon, ça fait qu'un mois que je suis là chez Ferrari et il y a énormément d'infos à emmagasiner, je suis encore en phase d'apprentissage, mais ça avance comme on l'avait imaginé. De toute manière, on ne peut pas faire mieux avec le temps qu'on a. Quand je regarde les grands pilotes qui sont arrivés chez Ferrari avant moi, Alonso, Vettel, ils étaient arrivés plus tôt dans la saison, dans l'écurie. Donc on essaie d'optimiser un maximum ce qu'on peut faire chaque jour. » C'est vrai que Louis, mine de rien, on parle d'Hamilton comme un vrai candidat au titre. Il a quand même très très peu de jours à son compteur en rouge avec Ferrari. Et c'est tellement un écosystème particulier, quand même la Scuderia, qu'il faut lui aussi, même s'il a 40 ans, même si c'est potentiellement le GOAT de ce sport, là il y a un vrai débat, mais en tout cas parmi les plus grands champions de l'histoire de ce sport, et bien lui aussi, il va avoir une période d'adaptation. Et il faut digérer ça.
Mais clairement, surtout que c'est de plus en plus court en F1, on a de moins en moins d'essais. Donc là, c'est quelques heures dans la voiture avant d'être dans son premier Grand Prix. Donc à la rigueur, l'avantage pour être aujourd'hui avoir la possibilité d'être champion du monde dans une nouvelle voiture, c'est qu'aujourd'hui les saisons sont si longues, 24 courses, que tu peux avoir un petit peu le temps de te régler, et si tu as la meilleure voiture derrière, arriver à faire ça. Mais sinon, c'est quand même très compliqué. Chaque pilote qui change d'écurie a quand même toujours besoin d'un peu d'adaptation, et souvent les petits dixièmes pour exploiter à 100% sa monoplace, il peut pas les avoir tout de suite, et ça paraît assez logique. Donc ça va être compliqué, mais du coup tout ça crée un storytelling aussi, où s'il est devant Charles, bah ça va être très compliqué pour Charles, parce qu'on dira l'autre il vient d'arriver, il est déjà devant Charles, enfin tu vois. Donc ça peut aussi par ricochet retomber sur Charles dans un sens comme dans l'autre. Donc ça peut aussi, avec cette pression, cette attente, ce monde comme tu dis, t'as les journalistes italiens sont là dès les essais, il y en a je sais pas combien, on est tous que tu aimes Ferrari, que tu les détestes, que tu aimes Hamilton, que tu le détestes, on est tous à attendre de voir ce que ça donne, machin, à tel point que la grande question du jour, c'était quoi ? C'était de savoir s'il allait encore mettre la main sur son volant au-dessus pour les départs chez Ferrari ou pas. Enfin, tu vois, c'est comme dit Alex.
D'ailleurs, il a un peu bidouillé. Apparemment, il a un peu bidouillé le volant. Il a fait quelques changements sur le volant.
Ouais.
Et tout.
Mais voilà, c'est que, comme dit Alex, on était à savoir qu'est-ce qu'il avait mangé ou quoi. Enfin, bon, bref.
Ah bah c'est sûr.
Mais donc voilà, donc toutes ces choses-là vont faire que les commentaires. Tout va être tellement décortiqué que ça peut aussi très rapidement leur compliquer la tâche. Après, j'ai beaucoup de confiance en Fred Vasseur pour arriver à gérer ça. Et j'ai aussi confiance en Charles pour lui mener la vie dure. Mais s'ils ont la meilleure voiture, pourquoi pas dès la première année, hein, parce qu'on a envie de rêver aussi. Ça serait, en fait, c'est que ça serait tellement, tu vois, ça serait voilà, après pour en faire un film. Tu vois ce que je veux dire,
voilà,
c'est genre,
exactement.
C'est derrière, allez, on en fait un film. Le film pendant une demi-heure, on parle de Michael Maisie et de ce fameux truc à Abu Dhabi. Enfin voilà, non mais l'histoire serait folle, donc on a envie, mais ça va quand même être très difficile parce que. Tu découvres une voiture et t'as beau être 7 fois champion du monde.
Mais faut pas l'oublier. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier.
Ouais, ouais.
En tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est que moi, mon Lewis, je le trouvais un peu lent l'année dernière, sans énergie, un peu pâteau. Mais non, mais là, t'as l'impression qu'il a 20 piges. Moi, il m'a mis 10 ans là. En un mois, j'ai l'impression qu'il a récupéré 10 points de vie sur moi là. Ça m'a fait mal au casque. Fred Vasseur, il a dit en rigolant, bah c'est peut-être parce que c'est un peu la lune de miel. Il dit oui, je trouve qu'il a un enthousiasme qu'on voit essentiellement chez les rookies. Ça fait du bien à l'équipe, à tout le monde, et ça fait du bien à la F1 en général. Pour nous, c'est une nouvelle énergie. C'est pas du tout une comparaison avec Carlos ou quoi que ce soit. J'ai gardé très bon rapport avec Carlos Sainz, mais quelqu'un qui rejoint l'équipe avec son expérience, ça apporte une vision un peu neuve sur ce qu'on faisait et ce qu'on fait. Bon, il le rince un peu, bien évidemment. Il a raison, c'est le pilote qu'il va avoir cette année. Non, mais c'est marrant d'entendre ça. C'est marrant de se dire que Lewis Hamilton, Alex, a 40 piges. Pour Vasseur, il te dit, mais le gars, il nous amène une énergie de rookie, quoi. C'est fou.
Bah, c'est un peu comme ce que je te disais juste avant. C'est exceptionnel de voir quelqu'un être aussi joyeux de ce sens.
Moi, oui, mais tu vois, Alex,
de 40 ans,
on le savait, Alex, mais tu vois, je pensais pas qu'Hamilton avait la capacité de se remettre dedans à ce point-là. Franchement, j'allais pas te dire qu'il était, rincé. Tu vois, j'allais pas te dire qu'il était rincé à la fin de l'année. Mais de là à tout inverser comme ça en un mois et à réussir à attirer tout le monde avec lui, à être le leader de la Scuderia, en tout cas, même au niveau médiatique, au niveau de l'image, je trouve ça fort déjà.
Mais tu sais que je vais même aller plus loin. Pour moi, ça date même de beaucoup plus loin, et surtout de Abu Dhabi 2021. Hein. Depuis Abu Dhabi 2021, tu ne vois pas un Lewis Hamilton, forcément après le traumatisme qu'il y a eu, tu n'as plus vu un Lewis Hamilton chez Mercedes, aussi engageant, aussi heureux d'être présent avec Mercedes et en Formule 1 dans la globalité. Peut-être pas seulement à cause de Mercedes, mais surtout à cause du fait que la performance n'était plus là, c'est vrai, à cause de Mercedes, mais surtout après un traumatisme à Abu Dhabi 2021. Il parlait beaucoup, Lewis Hamilton, si vous regardez ses déclarations, de changement d'air, de changer les choses dans sa carrière, de se lancer dans un nouveau défi. Certainement aussi que ce nouveau défi était nécessaire pour oublier ou passer à autre chose vis-à-vis du traumatisme de Abu Dhabi 2021 qu'il a vécu avec qui ? Avec Mercedes. Quand tu te lances avec Ferrari, tu lances un total nouveau défi, une nouvelle aventure où c'est presque un reset, une remise à zéro. Et c'est vrai que quand tu regardes Lewis Hamilton, sa joie de vivre à Maranello, quand il arrive, l'impression que c'est Jésus de Nazareth qui arrive. Alors, peut-être que les Italiens vont me bannir pour ça, mais c'est presque Jésus de Nazareth qui arrive en Italie à Maranello. Le gars, il a accueilli en rockstar ultime Ferrari qui, entre guillemets, le détestait presque parce qu'il était chez Mercedes et il le battait parce qu'il battait Ferrari lorsqu'il était chez Mercedes. L'accueil en rockstar et en demi-dieu presque d'une certaine manière. Et c'est là en fait où je veux en venir, c'est-à-dire que on voit surtout un Lewis Hamilton qui a enfin tourné peut-être la page de Abu Dhabi 2021 et qui sent une nouvelle aventure pour écrire une toute nouvelle histoire de la Formule 1 et surtout écrire une toute nouvelle histoire avec la Scuderia Ferrari, à savoir certainement ramener Ferrari vers les titres.
Bon, moi, en tout cas, on va suivre ça.
Moi, je crains juste une chose, Nico.
Ouais,
c'est que, pour le coup, si la voiture est pas au top ou quoi, ou enfin, si ça se passe mal, est-ce qu'il aura du coup à 40 ans la patience, ou est-ce que ça peut aussi s'arrêter plus rapidement qu'on le pense, parce que tu vois ce que je veux dire, genre est-ce qu'il est prêt à attendre encore 2-3 saisons si ça se passe pas aussi bien que prévu? Voilà, il est pas rookie, il a beau avoir l'enthousiasme d'un rookie, il est pas rookie quoi. Donc ça pourrait être le scénario un peu pourri où finalement l'histoire n'est pas si belle et on a pas envie de ça, mais c'est possible aussi.
Mais c'est super excitant de savoir ce qui va se passer. S'il pète un câble ou ouais. si l'histoire se termine de façon incroyablement belle, de toute manière, il y aura 12 milliards de choses à dire. Bon, bah, on se fera un petit débrief la semaine prochaine, de toute manière, de la troisième journée d'essai. Où est-ce qu'on en est là sur le live timing? Ça va pas trop bouger. Charles Leclerc, 3e à 5 centièmes de Lewis Hamilton. Il y a les deux Mercedes qui sont 4 et 5. Il y a Jack Doohan qui est devant Pierre Gasly, 6 centièmes entre les deux.
Impossible.
Ouais, si, Jack Doohan. Et Isaac Hadjar toujours 10e, et les deux As qui ferment la marche, mais on le sait. Hein, pour, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Elles dévoilent pas leur jeu. Les gars, je voulais vous entendre sur alors une polémique, pas une polémique, mais une décision de la FIA. Qu'est-ce qui se passe du côté de Monaco? La FIA a décidé d'imposer en course, quelles que soient les conditions météo, deux arrêts. Obligation pour les écuries d'utiliser 3 trains de pneus pour la course. C'est une règle qui a été instaurée uniquement pour le Grand Prix de Monaco. L'objectif, bah, c'est rendre le dimanche à Monaco plus dynamique. En tout cas, c'est ce que nous dit la FIA. Tous les pilotes le disent. De toute manière, Monaco, c'est la course que tout le monde attend, les mecs, pour la qualif. C'est la qualif la plus excitante de la saison. Mais c'est vrai que parfois, le dimanche, c'est une longue procession de voitures. Il n'y a pas trop de dépassements. L'année dernière, le top 10, il n'a pas bougé entre les qualifs et l'arrivée. Donc en gros, cette règle, c'est censé un peu encourager bah, une gestion des pneus un peu plus complexe, donc des stratégies un peu innovantes, augmenter le suspense et avoir quelques dépassements en plus, Alex. C'est ça l'idée. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
C'est ça l'idée, et moi je suis j'accueille cette nouvelle avec beaucoup de joie, j'ai envie de dire, parce que c'est le Grand Prix Monaco, c'est un Grand Prix qui est historique et qui aujourd'hui a la chance enfin de ne plus être en danger vis-à-vis de sa place au calendrier, et que même si c'est Monaco, même si ça a une place ancestrale, j'ai envie de dire, dans le monde de la Formule 1, on a le droit de bouger certaines choses sur le Grand Prix Monaco, qui est un Grand Prix spécial. Il faut classer le Grand Prix Monaco en Grand Prix spécial par sa place historique. Et donc, de ce fait-là, vu que c'est presque un... je ne vais pas dire un Grand Prix hors championnat, mais que c'est un Grand Prix tellement unique en somme, eh bien, on a le droit, on peut se permettre de changer certaines choses. Alors, je ne dis pas révolutionner non plus le Grand Prix Monaco, même si ça apporte une certaine révolution, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est une nouvelle qui est importante parce que ça va apporter beaucoup plus de stratégie sur un Grand Prix où il n'y en avait pas tellement, finalement, il faut être honnête. C'est plus un circuit de pilotes, certainement, bien sûr, par rapport à la lucidité et la réussite que tu dois te créer en essayant d'être le plus régulier possible tout en prenant des risques. Et c'est très dur sur un Grand Prix de 70 tours d'être le plus concis, précis avec la chaleur qu'il y a notamment à Monaco, et c'est très compliqué au niveau de tout ça. Alors ça dénature pas le Grand Prix Monaco, je suis pas d'accord avec ceux qui disent ça, dans le sens où oui, il y a la séance de qualification qui est là. La séance de qualification qui est là est extrêmement importante et restera de toute façon extrêmement primordiale pour la track position quand tu arriveras au Grand Prix. Ça va, peut-être que ça va être un flop, cette idée-là, c'est vrai, ça peut être un flop, mais à l'heure actuelle, sur le papier, c'est une excellente idée, et pour le Grand Prix Monaco, comme c'est un Grand Prix qui est spécial au calendrier, eh bien c'est bien de changer les choses, et je préfère une Formule 1 et un Grand Prix Monaco, même dans la globalité, qui cherche à trouver des solutions et à agir par rapport à cette situation de manque de dépassement. À titre d'exemple, en Formule I, avec des monoplaces qui sont beaucoup plus petites, eh bien on a, sur une course de une demi-heure contre un peu plus d'une heure en Formule 1, on a 200 tours, on a 200 dépassements en Formule I quand sur le même circuit, quand en Formule 1 on en a eu deux, donc je me rappelle en 2024. Donc il faut trouver des solutions, et ces solutions-là, vu qu'on ne peut pas dépasser à Monaco, mais il faut trouver des solutions vis-à-vis de la stratégie, et cette idée de faire deux arrêts, donc trois jeux de pneumatiques obligatoires, eh ben c'est hyper intéressant, et j'accueille cette nouvelle avec beaucoup de joie.
T'en penses quoi toi, Louis ?
Moi j'étais assez mitigé, dans le sens où justement comme c'est... un Grand Prix historique et tout, tu te dis, est-ce qu'on n'est pas en train de le travestir? Mais d'un autre côté, il faut aussi se dire, comme l'a dit Alex, qu'on a failli le perdre à un moment à cause d'enjeux financiers, à cause d'enjeux de spectacle, de manque de spectacle le dimanche, tout ça. Donc là, il est de nouveau un peu ancré dans le calendrier et tout, et donc c'est peut-être le moment de trouver des solutions, et à la rigueur, tu vois... Ouais, le tester, mais tu vois, comme l'a dit Alex, ça peut être un flop, et donc pas avoir peur non plus de revenir dessus si, le cas échéant, tu vois. Donc pas l'inscrire, tu vois, genre allez, on se dit pendant deux saisons on fait ça, ou trois, et on voit ce que ça donne. Mais après, bon, voilà, ça reste des changements de pneus. Ce qui peut paraître bizarre, c'est le fait que ça n'arrive qu'à ce circuit-là. Ça, ça peut paraître un manque de cohérence, de voilà ou quoi. Mais je pense que voilà, c'est un Grand Prix historique, c'est un Grand Prix différent, donc on doit aussi potentiellement s'adapter. Tu vas pas comme passer 78 tours à chaque fois à dire qu'il va plus rien se passer ouais. avec la largeur des bagnoles. Donc, c'est compliqué.
Je me mets les plans, c'est-à-dire je trouve même que c'est pas à Monaco de changer, c'est à la Formule 1 de s'adapter. C'est pas Monaco qui a décidé de mettre des Formule 1, des monstres de 1000 chevaux qui sont hyper imposants, qui ne sont plus aussi larges, qui ne sont plus aussi petites d'ailleurs plutôt que les monoplaces qu'on pouvait avoir en 2005, 2006, même en 2009, 2010, jusqu'à même 2014, avant même 2016 aussi d'ailleurs. C'est la Formule 1 qui a évolué de cette manière-là avec des monstres de 1000 chevaux. C'est pas Monaco, et c'est pas Monaco d'ailleurs de changer pour la Formule 1, puisque c'est Monaco. C'est le plus bel événement sport auto au monde. Et on n'a pas le plus bel événement de sport auto au monde n'a pas à se travestir pour la Formule 1. Monaco, c'est Monaco. Et Monaco, c'est intouchable. Donc il faut que c'est à la Formule 1 de s'adapter vis-à-vis de Monaco.
Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais en fait, alors déjà, moi, j'étais un peu surpris dans les stats. J'ai bossé ça tout à l'heure. Je suis remonté à l'année 2005. Mm-hmm. Sur les 18 derniers Grands Prix, 12 fois le pilote qui a signé la pole a remporté la course. Je pensais que c'était plus, franchement. Bon, ça fait que, ok, tu vas me dire 6 éditions sur 18 où il y a un peu de suspense, c'est pas ouf. Je suis d'accord, mais malgré tout, je pensais que c'était plus. Et puis j'ai comparé un peu le nombre de dépassements. Alors, c'est vrai, t'as raison, Alex, l'année dernière, il y en a eu deux. Je crois qu'en 2021, même, il n'y en a pas eu du tout. Mais tu vois, en 2023, t'as aussi un scénar de course où t'en as 23. Donc, il y a quand même aussi des courses encore spectaculaires à Monaco, même si, bien sûr, elles se sont raréfiées. En fait, moi, le seul truc où là j'ai aimé des doutes, c'est ce qui fait la beauté de Monaco, c'est quand même ce samedi au Qualif, où tu vois des mecs qui prennent tous les risques du monde pour frôler tous les murs de Monaco, toutes les épingles mythiques de ce tracé, pour aller chercher des millièmes, des millièmes, des millièmes, pour avoir cette pole ou pour avoir cette place dans les 10 parce que tu sais que ça va te faire gagner un point le dimanche. Et en fait, j'ai peur que cette règle-là, tu vois. Alors oui, ce sera plus spectaculaire le dimanche, et nous, quand on sera devant notre téloche, c'est cool. Mais j'ai peur que ça aseptise peut-être un peu, tu vois, la séance de qualif.
Je ne pense pas, parce que je ne pense pas que l'aspect des deux arrêts obligatoires va autant changer cet aspect de la séance de qualification. Parce que dans la finalité, les dépassements, ça ne changera pas la question du dépassement, ça changera la question de la stratégie. Il faut trouver une autre manière d'avoir une course peut-être un peu plus palpitante le dimanche du côté de Monaco. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Les qualifications à Monaco, c'est peut-être le moment le plus important même d'une saison entière. Tellement c'est impressionnant de voir les 20 meilleurs pilotes du monde, considérés du moins comme les 20 meilleurs pilotes du monde, s'attaquer au défi de Monaco, être entre les rails avec ces monstres de 1000 chevaux, comme je disais. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux, notamment à Saint-Devot, Charles Leclerc, quand il fait son tour de qualification. J'étais en train de me dire, mais comment c'est possible que Charles Leclerc ou tous les autres pilotes arrivent à tenir une telle monoplace en termes de freinage, de juste de la tournée et de pouvoir réaccélérer d'une manière assurée, aussi proche du mur. Pour moi, c'était de l'art absolu. Et je ne pense pas que non plus que cet art absolu des qualifications sera dénaturé avec cette règle justement imposée des doubles arrêts, parce que la track position sera toujours aussi importante. Après, bien sûr, ce sera le jeu des arrêts au stand, et ce sera plus le boulot des mécanos, on va dire ça ainsi,
en fait, quand tu fais la pole à Monaco, c'est peut-être autant valorisé que la victoire, j'abuse, mais franchement, c'est un peu ça. Quand tu fais une pole à Monaco, tu vois, t'es un king quand tu fais une pole à Monaco, quoi.
Pour deux raisons. Déjà, t'es un king parce que tu viens de faire en à peu près moins d'une minute dix un truc de malade à passer entre des rails dans une ville, et t'es un king aussi parce que normalement, t'as fait pour le coup 80% du boulot, parce que le lendemain, avant qu'on double, donc t'as presque déjà serré la main du prince. Donc, t'es un king, mais c'est compliqué. Moi, sur cette règle-là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas... comment dire ? Là, on oblige à faire quelque chose. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver un truc où on n'oblige pas, mais de fait, tu vois, par exemple, on crée des pneus pour Monaco, ou tu vois, un truc où, en fait, les équipes feront ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent, mais juste, on change le matos. Au lieu de les obliger...
Toi, c'est le côté imposé, qui te dénature un peu la course.
À un moment, t'es avec des médiums qui tiennent de ouf la route, et t'es en train de rattraper le mec devant. Et là, va falloir que je rentre mettre des hards ou je sais pas quoi. Alors tu vas me dire, oui, bah c'est le jeu. Oui, je sais, merci. Mais il y a un truc un peu frustrant dans le côté pure performance de la F1.
Je suis d'accord.
Tu vois, où tu te dis, bah non, je vais pas rentrer. Mes pneus, ils sont bons. Je suis en train de rattraper le gars devant là. Donc voilà.
En fait, moi, je suis très partagé parce que je pense qu'on va beaucoup, on va kiffer notre dimanche parce que ça. Je suis d'accord avec toi, Alex. Ça va amener de l'incertitude et ça va amener des choses nouvelles. Donc pour ça, et t'as raison, je pense que la F1 doit s'adapter à ce tracé mythique qu'est Monaco. Mais je me dis qu'en termes d'équité sportive, et si tu prends l'aspect sport auto pur, putain, c'est vachement dur quand même, parce que l'équipe qui a bien bossé, qui a bien développé la monoplace, qui a de la perf, être obligé de changer de train de pneus alors que voilà, t'as mieux bossé en termes de développement que les autres et que tu vois, t'es obligé de passer au stand, ça va un peu à contre-courant de la course automobile. Alors je suis peut-être très classique dans ce que je dis et un peu ringardos et vintage, tu vois, mais voilà, je suis un peu partagé sur ça.
Ouais, c'est peut-être ce qui fait exactement pour ça qu'Alex a dit que c'était un circuit spécial, c'est que c'est tellement spécial que c'est peut-être le seul pour lequel on peut comprendre que on emploie des choses comme ça, voilà, parce que autrement, je suis assez d'accord avec toi.
Oui, moi je comprends les avis de réticence, du moins, parce que encore une fois, surtout, on n'a aucune visibilité sur est-ce que ça va marcher ou non. Mmh. Et puis ça me rappelle aussi, je crois que c'était le Grand Prix du Qatar 2023 ou 2021, où il y avait une règle spéciale sur les pneumatiques parce que les pneumatiques n'étaient pas assez résistants à cause du tracé, on était obligé de s'arrêter tous les 20 tours.
Exactement.
Et que ça avait apporté une course aussi intéressante. J'ai pas trouvé que ça avait faussé autant la course. Alors c'était une situation d'urgence, bien sûr, mais ça me rappelle même à l'époque on avait les ravitaillements jouaient aussi de ce principe-là, et tu avais une obligation de devoir le niveau de litres de réservoir, et ben de t'arrêter tous les 30 tours maximum pour faire tout le Grand Prix. Donc ça va rejoindre un peu d'ailleurs l'aspect d'arrêt au stand qu'on pouvait avoir à l'époque avec les ravitaillements.
Ouais, ça va être super intéressant quand même, et je suis vraiment un énorme ringard parce que j'ai utilisé le terme ringardos. Et là, quand tu utilises ringardos, c'est que vraiment, mon gars, mais là tu vieillis fort. Je m'imagine sur un repas de famille en étant le vieux tonton là, relou là. C'était. Il reste combien de temps là sur notre deuxième journée d'essai? On est quoi dans les 10 dernières minutes là? Ouais, 10 minutes. Est-ce que ça a bougé? Non, ça.
Isaac toujours premier. Regarder.
Isaac toujours premier, non pas en du fait, tout, mais qu'est-ce qui est trop chaud. Hein,
en fait, pour donner des petites indications, notamment par rapport à ce que fait McLaren en fait des temps autour extrêmement intéressants, mais ils coupent leur tour.
Ben oui,
Lando Norris, par exemple, il fait toujours un très bon premier secteur. Là, il vient de faire un purple secteur dans le deuxième, il était sur le point de battre le chrono de Carlos Sainz. Et puis en fait, il coupe ses tours pour éviter de donner des informations à la concurrence sur le vrai potentiel de McLaren.
Ouais, parce que là ils sont 13 et 14. Piastris 13 et Lando Norris est 14. Ouais, mais c'est super intéressant. Alors. C'est ça qui est marrant sur les essais. C'est un peu ce jeu de dupe qu'il y a. Il y a Red Bull qui a testé un truc hier, qui a caché sa monoplace au moment de rentrer au stand pour pas que les adversaires puissent voir les innovations. C'est vraiment quand même ce jeu de dupe très marrant.
Ça se les gars, merci beaucoup. Il n'y avait rien du tout. Ils étaient en train de jouer aux cartes.
Ouais, totalement. Le mec était en train de se faire un énorme solitaire.
Alors moi en tant que team principal, je passerai mes essais à faire des lesbroufs comme ça, à dire alors toi là à 8h tu vas là-bas, tu prends un saut de glace, tu fais comme ça et tout, tu fais vraiment le gars qui doit pas être vu, et je passerai, je m'amuserai. Attends, les journalistes sont tellement à l'affût, faut jouer.
Ils font ça,
hein. Bah ouais.
Moi je pareil.
Clairement. Faut jouer. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Alex, tu stream demain la troisième journée ou pas?
Troisième journée. Non, je fais les débriefs des Cévernos demain.
Ah demain, bah alors vas-y, on te retrouve où alors? Vas-y, dis-nous où est-ce que les auditeurs du podcast
sont en live sur Twitch, sinon sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter aussi bien sûr, et puis
il est partout.
Également
il est partout celui-là.
Ouais, je suis partout. Voilà, et sinon off-track aussi bien sûr sur les réseaux.
Bien sûr. Aussi, vous suivez off-track, il y a plein d'infos, en plus les CM sont incroyablement marrants. Donc franchement, allez suivre off-track sur les réseaux. Les gars, merci beaucoup. Le paddock à partager avec tous vos potes qui sont dingues de F1. N'oubliez pas les petites notes. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.
Ciao.
Le paddock RMC.